Chapitre 2. J'avais 4 ou 5 compagnes dans le bourg et aux environs. C'étaient des filles de bourgeois du lieu, avec qui je passais une partie de la journée, ou les filles de quelques gentilshommes voisins et dont les mères m'emmenaient quelquefois dîner chez elles, quand le fermier qui avait affaire à leur mari était de venir me reprendre. Les demoiselles, j'entends les filles nobles, en qualité de mes égales, m'appelaient Tervire, et me tutoyaient, et s'honoraient un peu, ce me semble, de cette familiarité à cause de madame la marquise, ma mère. Les bourgeoises, un peu moins hardies, malgré qu'elles n'en eussent, usaient de finesse pour sauver leur petite vanité et me donnaient un nom qui paraissait les mettre au pair. J'étais ma chère amie pour elle, c'est une remarque que je fais en passant pour vous amuser. Voilà comment je vécus jusqu'à l'âge de près de 17 ans. Il y avait alors, à un petit demi-quart de lieue de notre bourg, un château où j'allais assez souvent. Il appartenait à la veuve d'un gentilhomme qui était mort depuis 10 ou 12 ans. Elle avait été autrefois une des compagnes de ma mère et sa meilleure amie. Je pense aussi qu'elles avaient été mariées à peu près dans le même temps et qu'elles s'écrivaient quelquefois. Cette veuve pouvait avoir environ 40 ans, femme bien faite et de bonne mine, et à qui sa fraîcheur et son embonpoint laissaient encore un assez grand air de beauté, ce qui, joint à la vie régulière qu'elle menait, à des mœurs qui paraissaient austères et à ses liaisons avec tous les dévots du pays, lui attirait l'estime et la vénération de tout le monde. D'autant plus qu'une belle femme, édifiée plus qu'une autre, quand elle est pieuse, parce qu'ordinairement elle a besoin d'un plus grand effort pour l'être. Il y avait bien quelques personnes dans nos cantons qui n'étaient pas absolument sûres de cette grande piété qu'on lui croyait. Parmi les dévots qui allaient souvent chez elle, on remarquait qu'il y avait toujours, en quelques gens, soit séculier, soit ecclésiastique, et toujours bien fait. Elle avait d'ailleurs de grands yeux, assez tendres. Sa façon de se mettre, quoique simple et modeste, avait un peu trop bonne grâce, et les gens dont je viens de parler se défiaient de tout cela. Mais à peine osaient-ils montrer leur défiance dans la crainte de passer pour de mauvais esprits. Cette veuve avait écrit à ma mère que je la voyais souvent, et il est vrai que j'aimais sa douceur et ses manières affectueuses. Vous vous souvenez que je n'en avais pas de bien. Ma mère, qui ne savait que faire de moi et qui aurait souhaité que je ne vinsse jamais à Paris, où je n'aurais pu prendre les airs d'une fille de condition, ni vivre convenablement à sa vanité et au rang qu'elle y tenait, lui témoigna combien lui serait obligé s'il pouvait adroitement m'inspirer l'envie d'être religieuse. Là-dessus, la veuve entreprend d'y réussir. La voilà qui donne le mot à toute cette société de gens de bien, afin qu'il concoure avec elle au succès de son entreprise. Elle redouble de caresses et d'amitié pour moi, et il est vrai qu'une fille de mon âge et d'une aussi jolie figure qu'on disait que je l'étais ne lui aurait pas fait peu d'honneur d'aller se jeter dans un couvent au sortir de ses mains. Elle me retenait presque tous les jours à souper, et même à coucher avec elle, à peine pouvait-elle se passer de me voir depuis le matin jusqu'au soir. Monsieur et madame Villot étaient charmés de mon attachement pour elle, ils m'en louaient, ils m'en estimaient encore davantage, et tout le monde pensait comme eux. Et je m'affectionnais moi-même aux éloges que j'entendais donner. J'étais flatté de cet applaudissement général. Ma dévotion augmentait tous les jours et ma mine en devenait plus austère. Cette femme m'associait à tous ses pieux exercices, m'enfermait avec elle pour de saintes lectures, m'emmenait à l'église et à toutes les prédications qu'elle courait. Et je passais fort bien, une heure ou deux, assise et toute ramassée dans le fond d'un confessionnal, où je me recueillais comme elle, où je croyais du moins me recueillir à son exemple, à cause que j'avais l'honneur d'imiter sa posture. Elle avait su m'intéresser à toutes ces choses par la façon insinuante avec laquelle elle me conduisait. Ma prédestinée, me disait-elle souvent, car elle et ses amis ne me donnaient point d'autre nom, que la piété d'une fille comme vous est un touchant spectacle. Oh, je ne saurais vous regarder sans louer Dieu, sans me sentir excité à l'aimer. Aimer sans doute, répondaient nos amis. Cette piété qui nous charme et dont nous sommes témoins est une grâce que Dieu nous fait aussi bien que mademoiselle. Et ce n'est pas pour en rester là que vous êtes si pieuse avec tant de jeunesse et tant d'agrément, ajoutait-on. Cela ira encore plus loin. Dieu vous destine à un état plus saint. Il vous voudra tout entière. Oh, on le voit bien. Il faut de grands exemples au monde et vous en serez un du triomphe de la grâce. À ces discours qui m'animaient, on joignait des égards presque respectueux. On feignait des étonnements. On levait les yeux au ciel d'admiration. J'étais parmi eux une personne grave et vénérable. Ma présence en imposait, et à tout âge, surtout à celui où j'étais, on aime à se voir de la dignité avec ceux avec qui l'on vit. C'est de si bonne heure qu'on est sensible au plaisir d'être honoré. Aussi la veuve espérait-elle bien, par là, me mener tout doucement à ses fins. Sa maison n'était pas éloignée d'un couvent de filles où nous allions pour le moins une ou deux fois la semaine. Elle y avait une parente qui était instruite de ses desseins et qui s'y prêtait avec toute l'adresse monacale, avec tout le zèle malentendu dont elle était capable. Je dis malentendu car il n'y a rien de plus imprudent et peut-être rien de moins pardonnable que ces petites séductions qu'on emploie en pareil cas pour faire venir à une jeune fille l'envie d'être religieuse. Ce n'est pas en agir de bonne foi avec elle. Il vaudrait encore mieux lui exagérer les conséquences de l'engagement qu'elle prendra que de l'empêcher de les voir ou que de les lui déguiser si bien qu'elle ne les connaît pas. Quoi qu'il en soit, cette parente de ma veuve n'oubliait rien pour me gagner et elle y réussissait. Je l'aimais de tout mon cœur. C'était une vraie fête pour moi que d'aller lui rendre visite. Et on ne saurait croire combien l'amitié d'une religieuse est attrayante, combien elle engage une fille qui n'a rien vu et qui n'a nulle expérience. On aime alors cette religieuse autrement qu'on aimerait une amie du monde. C'est une espèce de passion que l'attachement innocent comprend pour elle, et il est sûr que l'habit que nous portons, et qu'on ne voit qu'à nous, que la physionomie reposée qu'il nous donne, contribuent à cela, aussi bien que cet air de paix qui semble répandu dans nos maisons et qui les fait imaginer comme un asile doux et tranquille. Enfin, il n'y a pas jusqu'au silence qui règne parmi nous qui ne fasse une impression agréable sur une âme neuve et un peu vive. J'entre dans ce détail à cause de vous à qui il peut servir, Marianne, et afin que vous examiniez en vous-même si l'envie que vous avez d'embrasser notre état ne vient pas en partie de ces petits attraits dont je vous parle et qui ne durent pas longtemps. Pour moi, je les sentais quand j'allais à ce couvent, et il fallait voir comme ma religieuse me serrait les mains dans les siennes, avec quelle sainte tendresse elle me parlait et jetait les yeux sur moi. Après cela, venaient encore deux ou trois de ses compagnes, aussi caressantes qu'elle, et qui m'enchantaient par la douceur des petits noms qu'elles me donnaient et par leurs grâces simples et dévotes, de sorte que je ne les quittais jamais que pénétré d'attendrissement pour elles et pour leur maison. « Mon Dieu, que ces bonnes filles sont heureuses !» me disait la veuve quand nous retournions chez elle. « Oh, que n'ai-je pris cet état-là ! Nous venons de les laisser dans le sein du repos et nous allons retrouver le tumulte de la vie du monde. » J'en convenais avec elle, et dans les dispositions où j'étais, il me fallait peut-être plus qu'une visite ou deux à ce couvent pour me déterminer à m'y jeter, sans un coup de hasard, qui me changea tout d'un coup là-dessus. Un jour que ma veuve était indisposée et qu'il y avait plus d'une semaine que nous n'avions été à ce couvent, j'eus envie d'y aller passer une heure ou deux, et je priai la veuve de me donner sa femme de chambre pour me mener. J'avais un livre à rendre à ma bonne amie la religieuse, que je demandais et que je ne pus voir. Un rhumatisme auquel elle était sujette la retenait au lit. Ce fut ce qu'elle m'envoya dire par une de ses compagnes qui venait ordinairement me trouver au parloir avec elle. Celle qui me parla alors était une personne de 25 à 26 ans, grande fille d'une figure aimable et intéressante, mais qui n'avait toujours paru moins gaie, ou si vous le voulez, plus sérieuse que les autres. Elle avait quelquefois un air de mélancolie sur le visage, que l'on croyait naturel et qui ne rebutait point, qui devenait même attendrissant par je ne sais quelle douceur qui s'y mêlait. Il me semble que je la vois encore avec ses grands yeux languissants. Elle laissait volontiers parler les autres quand nous étions toutes ensemble. C'était la seule qui ne m'eût point donné de petit nom et qui se contentait de m'appeler mademoiselle sans que cela m'empêchât de la trouver aussi affable que ses compagnes. Ce jour-là, elle me parut encore plus mélancolique que de coutume, et comme je ne la soupçonnais point de tristesse, je m'imaginais qu'elle ne se portait pas bien. « N'êtes-vous pas malade ?» lui dis-je. « Je vous trouve un peu pâle. »« Oh, cela se peut bien, » me répondit-elle. « J'ai passé une assez mauvaise nuit, mais ce ne sera rien. »« Souhaitez-vous, » ajouta-t-elle, « que j'aille avertir nos sœurs que vous êtes ici ?» « Non, non, lui dis-je, je n'ai qu'une heure à rester avec vous, et je ne demande pas d'autre compagnie que la vôtre, aussi bien aurais-je incessamment le temps de voir nos bonnes amies tout à mon aise, sans être obligé de les quitter. »« Comment, sans les quitter ? » me dit-elle, « auriez-vous dessein d'être des nôtres ?»« Oh, bien, j'y suis plus d'à moitié résolu, lui répondis-je, je crois que dès demain je l'écrirai à ma mère. » Il y a longtemps que notre bonheur me fait envie, et je veux être aussi heureuse que vous. » Je passai alors ma main à travers le parloir pour prendre la sienne, qu'elle me tendit, mais sans répondre à ce que je lui disais. Je m'aperçus même que ses yeux se mouillaient, et qu'elle baissait la tête apparemment pour me le cacher. J'en demeurai dans un étonnement qui me rendit à mon tour quelques instants muette. « Mais dites-moi donc, » m'écriai-je en la regardant, « est-ce que vous pleurez ? Est-ce que je ne me trompe sur votre bonheur ?» À ce mot de bonheur, ses larmes redoublèrent et j'en fus touché moi-même sans savoir ce qui l'affligeait. Enfin, après plusieurs soupirs qui sortirent comme malgré elle, « Hélas, mademoiselle, » me répondit-elle, « gardez-moi le secret sur ce que vous voyez. » Je vous en conjure, ne dites mes pleurs à personne. Je n'ai pas pu les retenir et je vous en confierai la cause. Il ne vous sera peut-être pas inutile de le savoir. Elle peut servir à votre instruction. » Elle s'arrêta là pour essuyer ses larmes. « Mais achevez, » lui dis-je en pleurant moi-même, « et ne me cachez rien, ma chère amie. Je me sens pénétré de vos chagrins et je regarde la confiance que vous me témoignez comme un bienfait que je n'oublierai jamais. » « Vous voulez vous faire religieuse ?» me dit-elle alors. « Et les caresses de nos sœurs, l'accueil qu'elles vous font, les discours qu'elles vous tiennent, et autant qu'il me semble les insinuations de Madame de Saint-Hermière, c'était le nom de ma veuve, tout vous y porte et vous allez vous engager dans notre état sur la foi d'une vocation que vous croyez avoir et que vous n'auriez peut-être pas sans tout cela. Prenez-y garde. » J'avoue, si vous êtes bien appelée, que vous vivrez tranquille et contente. Mais ne vous en fiez pas aux dispositions où vous vous trouvez. Elles ne sont pas assez sûres, je vous en avertis. Peut-être cesseront-elles avec les circonstances qui vous les inspirent à présent, mais qui ne font que vous les prêter. Et je ne saurais vous dire quel malheur c'est pour une fille de votre âge de s'y être trompée. Ni jusqu'où ce malheur-là peut devenir terrible pour elle. Vous ne vous figurez ici que des douceurs. Oh, il y en a, sans doute. Mais ce sont des douceurs particulières à notre état et il faut être né pour les goûter. Nous avons aussi nos peines que le monde ne connaît point et il faut être né pour les supporter. Il y a telle personne qui dans le monde aurait pu soutenir les plus grands malheurs et qui ne trouve pas en elle de quoi soutenir les devoirs d'une religieuse, tout simple qu'ils paraissent. Chacun a ses forces. Celles dont on a besoin parmi nous ne sont pas données à tout le monde, quoiqu'elles semblent devoir être bien médiocres, j'en fais l'expérience. C'est à votre âge que je suis entré ici. On m'y mena d'abord, comme on vous y mène. Je m'y attachais, comme vous, à une religieuse dont je fis mon amie, ou pour mieux dire, caressée par toutes celles qui y étaient. Je les aimais toutes, je ne pouvais pas m'en séparer. J'étais une cadette, toute ma famille aidait au charme qui m'attirait chez elle. Je n'imaginais rien de si doux que d'être du nombre de ces bonnes filles qui m'aimaient tant, pour qui ma tendresse était une vertu, et avec qui Dieu me paraissait si aimable, avec qui j'allais le servir dans une paix si délicieuse. Hélas, mademoiselle, quelle enfance! Je ne me donnais pas à Dieu, ce n'était point lui que je cherchais dans cette maison. Je ne voulais que m'assurer la douceur d'être toujours chérie de ces bonnes filles et de les chérir moi-même. C'était là le puéril attrait qui me menait. Je n'avais point d'autre vocation. Personne n'eut la charité de m'avertir de la méprise que je pouvais faire. Et il était plus temps de me dédire quand je connus toute la mienne. J'eus cependant des ennuis et des dégoûts sur la fin de mon noviciat. Mais c'était des tentations, venait-on me dire affectueusement et en me caressant encore. À l'âge où j'étais, on n'a pas le courage de résister à tout le monde. Je crus ce qu'on me disait, tant par docilité que par persuasion. Le jour de la cérémonie de mes vœux arriva. Je me laissai entraîner et je fis ce qu'on me disait. J'étais dans une émotion qui avait arrêté toutes mes pensées. Les autres décidèrent de mon sort et je ne fus moi-même qu'une spectatrice stupide de l'engagement éternel que je pris. Et ses pleurs recommencèrent ici, et elle n'acheva le dernier mot qu'avec une voix étouffée par ses soupirs. Vous avez vu que sa douleur m'avait fait d'abord que m'attendrir, mais elle m'effraya dans ce moment-ci. Tout ce qui l'avait conduite à ce couvent ressemblait si fort à ce qui m'en était envie d'y être. Mes motifs venaient si exactement des mêmes causes, et je voyais si bien mon histoire dans la sienne, que je tremblais du péril où j'étais, ou plutôt de celui où j'avais été. Car je crois que dans cet instant, je ne me souciais plus de cette maison, non plus que de celle qui y demeurait. Je me sentis glacé pour elle, et je ne fis plus de cas de leur façon. De sorte qu'après avoir fait quelques instants rêver sur ce que je venais d'entendre. « Ah, mon Dieu, madame, que de réflexions vous me faites faire, » dis-je à cette religieuse qui pleurait encore, « et que vous m'apprenez de choses que je ne savais pas. »« Hélas, » me répondit-elle, « je vous l'ai déjà dit, mademoiselle, et je vous le répète, ne confiez votre conversation à personne. Je ne suis déjà que trop à plaindre, je serais encore davantage si vous parliez. » « Mais vous n'y songez pas, lui dis-je, moi, révéler une confidence à qui je devrais peut-être tout le repos de ma vie, et que malheureusement je ne puis payer par aucun service, malgré le triste état où vous êtes et qui m'arrache les pleurs que vous me voyez verser, » ajoutai-je avec un attendrissement, dont la douceur la gagna au point que le reste de son secret lui échappa. « Hélas, vous ne voyez rien encore et vous ne savez pas tout ce que je souffre, s'écria-t-elle en appuyant sa tête sur ma main, que je lui avais passée et qu'elle arrosa de ses larmes. « Cher ami, lui répondis-je à mon tour, auriez-vous encore d'autres chagrins? Soulagez votre cœur en me les disant. Donnez-vous du moins cette consolation-là, avec une personne qui vous aime et qui en soupirera avec vous. » Eh bien, me dit-elle, je me fie à vous. J'ai besoin de secours, et je vous en demande, et c'est contre moi-même. Elle tira alors de son sein un billet sans adresse, mais cacheté, qu'elle me donna d'une main tremblante. Puisque je vous fais pitié, ajouta-t-elle, défaites-moi de cela, je vous en conjure. Ôtez-moi ce malheureux billet qui me tourmente. Délivrez-moi du péril où il me jette et que je ne le vois plus. Depuis 2 heures que je l'ai reçu, je ne vis point. Mais, lui dis-je, vous ne l'avez point lu, il n'est pas ouvert. Non, me répondit-elle. À tout moment, j'ai eu envie de le déchirer. À tout moment, j'ai été tenté de l'ouvrir et à la fin, je l'ouvrirai. Oh, je n'y résisterai pas. Je crois que j'allais le lire quand par bonheur pour moi vous êtes venu. Mais quel bonheur! Hélas, je suis bien éloigné de sentir que c'en est un. Je ne sais pas même si je le pense. Ce billet que je viens de vous donner, je le regrette, peu s'en faut que je vous le redemande. Je voudrais le ravoir. Mais ne m'écoutez point, et si vous le lisez, comme vous en êtes la maîtresse, puisque je ne vous cache rien, ne me dites jamais ce qu'il contient. Oh, je n'en doute que trop, et je ne sais trop qu'est-ce que je deviendrais si j'en étais mieux instruite. Et de qui le tenez-vous? Lui dis-je alors, ému moi-même du trouble où je la voyais. Mais de mon ennemi mortel, d'un homme qui est plus fort que moi, plus fort que ma religion, que mes réflexions, répondit-elle, d'un homme qui m'aime, qui a perdu la raison, qui veut m'ôter la mienne, qui n'y a déjà que trop réussi, et à qui il faut que vous parliez, et qui s'appelle. Elle me le nomma alors tout de suite, dans le désordre des mouvements qui l'agitaient, et jugez quelle fut ma surprise. Quand elle prononça le nom d'un homme que je voyais presque tous les jours chez Madame de Saint-Hermière, et qui était un jeune abbé de 27 à 28 ans, qui à la vérité n'avait encore aucun engagement bien sérieux dans l'état ecclésiastique, qui jouissait cependant d'un petit bénéfice, qui passait pour être très pieux, qui avait la conduite et l'air d'un homme qu'il aimait beaucoup, et que je croyais moi-même d'une sagesse de mœurs irréprochable. Aussi, en apprenant que c'était lui, oh, je ne pus m'empêcher de faire un cri. Je sais, ajouta-t-elle, que vous le voyez très souvent. Nous sommes alliés et il m'a trompé dans ses visites. Oh, peut-être s'y est-il trompé lui-même. Il m'a, dit-il, aimé sans qu'il l'ait su. Et je crois que ma faiblesse vient d'avoir su qu'il m'aimait. Depuis ce temps-là, il me persécute et je l'ai souffert. Mais montrez-lui sa lettre. Dites-lui que je ne l'ai point lue. Dites-lui que je ne veux plus le voir. Qu'il me laisse en repos, par pitié pour moi, par pitié pour lui. Faites-lui peur de Dieu même, qui me défende encore contre lui, qu'il ne me défendrait pas longtemps et sur qui il aurait le malheur de l'emporter. S'il continue de me poursuivre, dites-lui qu'il doit trembler de l'état où je suis. Ne le réponds de rien si je le revois. Je suis capable de le suivre. Je suis capable d'abréger ma vie. Je suis capable de tout. Je ne prévois que des horreurs. Je n'imagine que des abîmes. Et il est sûr que nous périrons tous deux. Elle fondait en larmes en me tenant ce discours. Elle avait les yeux égarés. Son visage était à peine reconnaissable, il m'épouvanta. Nous gardâmes toutes deux un assez long silence, et je le rompis enfin, je pleurais avec elle. Tranquillisez-vous, lui dis-je, vous êtes né avec une âme douce et vertueuse. Ne craignez rien, Dieu ne vous abandonnera pas. Vous lui appartenez, il ne veut que vous instruire. Vous comparerez bientôt le bonheur qu'il y a d'être à lui au misérable plaisir que vous trouvez à aimer un homme faible, corrompu, tôt ou tard ingrat, pour le moins infidèle et qui ne peut occuper votre cœur qu'en l'égarant, qui ne vous donne le sien que pour vous perdre, vous le savez bien, vous me le dites vous-même. C'est d'après vous que je parle, et tout ceci n'est qu'un trouble passager qui va se dissiper, qu'il fallait que vous connussiez pour en être ensuite plus forte, plus éclairée et plus contente de votre état. » Je m'arrêtai là, une cloche sonna qui l'appelait à l'église. « Revenez donc me voir, » me dit-elle d'une voix presque étouffée. Et elle me quitta. Je restai encore quelques moments assise. Tout ce que je venais d'entendre avait fait une si grande révolution dans mon esprit, et je revenais de si loin que, dans l'étonnement où j'étais de mes nouvelles idées, je ne songeais point à sortir de ce parloir. Cependant, le jour baissait, et je m'en aperçus à travers ma rêverie, et je rejoignis la femme de chambre qui m'avait amené. Je la trouvai qui venait me chercher. Me voilà donc, comme je vous l'ai déjà dit, entièrement guérie de l'envie d'être religieuse, guérie à un point que je tressaillais en réfléchissant que j'avais pensé l'être, et qu'il s'en était peu fallu que je n'en eusse donné ma parole. Heureusement, je n'avais pas été jusque-là. Je n'avais encore paru que tenter d'embrasser cet état. Madame de Saint-Hermière, chez qui je revins pour quelques moments, voulut me retenir à coucher. Mais sans compter que je désirais d'être seul pour me livrer tout à mon aise à la nouveauté de mes réflexions, c'est que je croyais d'avoir le visage aussi changé que l'esprit, et que j'appréhendais qu'elle ne s'aperçût à ma physionomie que je n'étais plus la même, de sorte que j'avais besoin d'un peu de temps pour me rassurer et pour prendre une mine où l'on ne connut rien, je veux dire ma mine ordinaire. Je ne me rendis donc point à ces instances et m'en retournai chez M. Villot, où j'achevais de me familiariser moi-même avec mon changement et où je rêvais au moyen de ne le laisser entrevoir insensiblement aux autres, car j'aurais été honteuse de les désabuser trop brusquement sur mon compte. Je voulais m'épargner leur surprise. Mais apparemment que je m'y pris mal, et je n'épargnais rien. J'oubliais une circonstance qu'il est nécessaire que vous sachiez. C'est qu'en me retournant chez mon fermier, avec la femme de chambre qui m'avait accompagné au couvent, je rencontrai ce jeune homme dont m'avait entretenu la religieuse, cet abbé qui lui faisait répandre tant de larmes et dont le billet que j'avais dans ma poche l'avait jeté dans un si grand trouble. J'allais entrer chez M. Villot et je venais de renvoyer la femme de chambre. Ce jeune Tartuffe, avec sa mine dévote, s'arrêta pour me saluer et me faire quelques compliments. « Nous ne nous aurons donc pas vus ce soir chez Madame de Saint-Hermière, où j'avais soupé, mademoiselle, » me dit-il. « Non, monsieur, » lui répondis-je. « Mais en revanche, je puis vous donner des nouvelles de Madame de... que je quitte, et qui m'a beaucoup parlé de vous, » je nommais la religieuse. Et l'air froid, dont je lui dis ce peu de mots, parut lui faire quelque impression, du moins je le crus. « Elle a bien de la bonté, » reprit-il. « Oh, je la vois quelquefois. Comment se porte-t-elle »« Quoiqu'il n'y ait que 3 heures que vous l'ayez quittée, » lui répartis-je, et aussitôt il rougit. « Oh, vous ne la reconnaîtriez pas, tant elle est abattue. Je l'ai laissée baigner de ses pleurs et pénétrer jusqu'au désespoir de l'égarement d'un homme qui lui a écrit il y a 6 ou 7 heures, dont elle déteste les visites passées, dont elle veut recevoir de la vie, qui tenterait inutilement de la revoir encore et à qui elle m'a prié de rendre son billet que voici, » ajoutai-je en le tirant de ma poche, où il s'était ouvert je ne sais comment. Apparemment que la religieuse en avait déjà à moitié rompu le cachet, dont la rupture dut lui persuader sans doute que je l'avais lu, et qu'ainsi je savais jusqu'où il était dégagé de scrupules en fait de religion et de bonne mœurs, en fait de probité même. Car je me doutais, sur tous les discours de la religieuse, qui ne s'était pas agi de moins que d'un enlèvement, il n'y avait guère qu'un malhonnête homme qui eût pu en avoir fait la proposition. Il prit le billet d'une main tremblante, et je le quittai sur le champ. « Adieu, monsieur, lui dis-je, Ne craignez rien de ma part, je vous promets un secret inviolable. Mais craignez tout de mon ami, bien résolu d'éclater à quelque prix que ce soit, si vous continuez à la poursuivre. Elle ne m'avait pas chargé de lui faire cette menace, mais j'ai cru pouvoir l'ajouter de mon chef, et c'était encore un secours que je prêtais à cette fille, dont le péril me touchait, et je pris sur moi d'aller jusque-là pour effrayer l'abbé et pour lui ôter toute envie de renouer l'intrigue. Et j'y réussis, en effet. Il ne retourna pas au couvent, et j'en débarrassais la religieuse, ou pour mieux dire, j'en débarrassais sa vertu. Car pour elle, il y avait des moments où elle aurait donné sa vie pour le revoir, à ce qu'elle me disait, dans quelques entretiens que j'eus encore avec elle. Cependant, à force de prières, de combats et de gémissements, ses peines s'adoucirent, elle acquit de la tranquillité, insensiblement elle s'affectionna à ses devoirs et devint l'exemple de son couvent par sa piété. Quant à l'abbé, oh, cette aventure ne le rendit pas meilleur, apparemment qu'il ne méritait pas d'en profiter. La religieuse n'était qu'une égarée, l'abbé était un perverti, un faux dévot, en un mot. Et Dieu, qui distingue nos faiblesses de nos crimes, ne lui fit pas la même grâce qu'elle, comme vous l'avez voir par le récit d'un des plus tristes accidents de ma vie. Je retournai le lendemain après-midi chez Madame de Saint-Hermière, qui était alors enfermée dans son oratoire et que deux ou trois de nos amis communs attendaient dans la salle. Elle descendit un quart d'heure après, et d'aussi loin qu'elle me vit, « Ah, vous voilà donc, petite !» me cria-t-elle, comme en soupirant sur moi. Hélas, je songeais tout à l'heure à vous, où vous m'avez distrait dans ma prière. Voici le temps où je n'aurais plus le plaisir de vous voir parmi nous, mais vous n'en serez que mieux. Nous allons être séparés d'elle, messieurs. Oui, c'est dans la maison de Dieu qu'il faudra désormais chercher notre prédestinée. D'où vient donc, madame, lui dis-je avec un sourire que j'affectais pour cacher la rougeur dont je ne pus me défendre en entendant parler de la maison de Dieu. Oui, hélas, mademoiselle, me répondit-elle, c'est que je viens de recevoir une lettre de madame la marquise, elle parlait de ma mère, à qui j'écrivis ces jours passés que dans les dispositions où je vous trouvais, elle pouvait se préparer à vous voir bientôt religieuse. Et elle me charge de vous dire qu'elle vous aime trop pour s'y opposer, si vous êtes bien appelé, et qu'elle changerait bien son état contre celui que vous voulez prendre, qu'elle n'estime pas assez le monde pour vous y retenir, malgré vous, et qu'elle vous permet d'entrer au couvent quand il vous plaira. Ce sont ses propres termes, et je prévois que vous profiterez peut-être de ces jours-ci, de la permission qu'on vous donne, ajouta-t-elle en me présentant la lettre de ma mère. Les larmes me vinrent aux yeux pour toute réponse, mais c'étaient des larmes de tristesse et de répugnance. On ne pouvait s'y méprendre à l'air de mon visage. « Et qu'est-ce donc ? » dit-elle. « On croirait que cette lettre vous afflige. Est-ce que j'ai mal jugé de vous ? Tout le monde ici s'est-il trompé ? N'êtes-vous plus dans les mêmes sentiments, ma fille ? Mais que ne m'avez-vous consulté avant que d'écrire à ma mère ?» lui répartis-je en sanglotant. Ne vous achevez de me perdre auprès d'elle, madame. Je ne serai point religieuse. Dieu ne me veut pas dans cet état-là. À ce discours, je vis madame de Saint-Hermière, immobile et presque pâlissante. Ses amis se regardaient et levaient les mains d'étonnement. Ah, Seigneur, vous ne serez pas religieuse ? S'écria-t-elle ensuite d'un ton douloureux qui signifiait « Mais où en suis-je ?» Et il est vrai que je lui ôtais l'espérance d'une aventure bien édifiante pour le monde et par conséquent bien glorieuse pour elle. Après toute la dévotion que je tenais d'elle et de son exemple, il ne me manquait plus qu'un voile pour être son chef-d'œuvre. « Ne vous effrayez point, lui dit alors un de ceux qui étaient présents, en souriant d'un air plein de foi. Oh, je m'y attendais. Ceci n'est qu'un dernier effort de l'ennemi de Dieu contre elle. Vous l'irez peut-être voler dès demain à cette heureuse et sainte retraite qui vaut bien la peine d'être achetée par un peu de tentation. Non, monsieur, répondis-je, toujours la larme à l'œil. Non, non, ce n'est point une tentation. Mon parti est pris là-dessus. Mais en ce cas-là, je vous plains de toute façon, mademoiselle, me répartit madame de Saint-Hermière, avec une froideur qui m'annonçait l'indifférence du commerce que nous aurions désormais ensemble. Et aussitôt, elle se leva pour passer dans le jardin. Les autres la suivirent. J'en fis autant. Mais aux manières qu'on eut avec moi dès cet instant, je ne reconnus plus personne de cette société. C'est comme si j'avais vécu avec d'autres gens. Ce n'étaient plus eux et ce n'était plus moi. De cette dignité où je m'étais vu parmi eux, il n'en fut plus question. De ce respectueux étonnement pour mes vertus, de ces dévotes exclamations sur les grâces dont Dieu favorisait cette jeune et véritable prédestinée, il n'en resta pas vestige. Et je ne fus plus qu'une petite personne fort ordinaire qui avait d'abord promis quelque chose, mais à qui on s'était trompé et qui n'avait pour tout mérite que l'avantage profane d'être assez jolie. Car je n'étais plus si belle depuis que je refusais d'être religieuse. Ce n'était plus si grand dommage que je ne le fusse pas à ne regarder que l'édification que j'aurais donnée au monde. En un mot, je déchus de toute façon. Et pour me punir de l'importance dont j'avais joui jusqu'alors, on porta si loin l'indifférence et l'inattention pour moi, quand j'étais présente, qu'à peine paraissait-on savoir que j'étais là. Aussi mes visites au château devinrent-elles si rares qu'à la fin, je ne rendais presque plus. Dans l'espace d'un mois, je ne voyais que deux ou trois fois madame de Saint-Hermière, qui ne s'en plaignait point, qui ne me souhaitait ni ne me haïssait, dont l'accueil n'était point tiède ou distrait, et point impoli, et à qui en effet je n'essais ni plaisir ni peine. Il y avait déjà près de 5 mois que cela durait, quand un matin il vint à la quai de madame de Saint-Hermière me prier de sa part d'aller dîner chez elle. Cette invitation à laquelle je me rendis me parut nouvelle dans les termes où nous en étions toutes deux. Mais ce qui me surprit encore davantage en arrivant, ce fut de voir cette dame reprendre avec moi cet air affectueux et caressant dont il n'était plus question depuis si longtemps. Je la trouvai avec un gentilhomme qui ne venait chez elle que depuis ma disgrâce et que je ne connaissais moi-même que pour l'avoir rencontré au château dans mes 2 dernières visites. Homme à peu près de 40 ans, infirme, presque toujours malade, souvent mourant, un asthmatique qui aurait, disait-on, fort aimé la dissipation et le plaisir, mais à qui sa mauvaise santé et la nécessité de vivre de régime n'avaient laissé d'autre chose à faire que d'être dévot, et dont la mine, au moyen de cette dévotion et de ses infirmités, était devenue maigre, pâle, sérieuse et austère. Cet homme, comme je vous le dépeins, languissant, à demi-mort, d'ailleurs garçon et fort riche, qui, comme je vous l'ai dit, ne m'avait vu que 2 fois, à travers ses langueurs et son intérieur triste et mortifié, avait pris garde que j'étais jolie et bien faite. Et comme il savait que je n'avais point de fortune, que ma mère, qui était outrée de ce que je n'avais pas pris le voile, ne demanderait pas mieux que de se défaire de moi, qu'on lui disait d'ailleurs que, malgré mon inconstance passée dans l'affaire de ma vocation, je ne laissais pas cependant que d'avoir de la sagesse et de la douceur, il se persuada, puisque je manquais de bien, que ce serait une bonne œuvre que de m'aimer jusqu'à m'épouser, qu'il y aurait de la piété à se charger de ma jeunesse et de mes agréments, et à les retirer, pour ainsi dire, dans le mariage. Ce fut dans ce sens-là qu'il en parla à madame de Saint-Hermière. Elle, qui était bien aise de réparer l'affront que je lui avais fait en restant dans le monde, qui voyait que la maison de ce gentilhomme ne valait guère moins qu'un couvent, et qu'en me mariant avec lui, je lui ferais presque autant d'honneur que si elle m'avait fait religieuse, l'encouragea à suivre son dessein, résolut aussitôt avec lui de m'en instruire et de me donner à dîner chez elle, où je le trouvais. « Venez, ma fille, venez, que je vous embrasse !» me dit-elle dès qu'elle me vit. « Je n'ai jamais cessé de vous aimer, quoique j'ai un peu cessé de vous le dire, mais laissons là mon silence et les raisons qui l'ont causé. Il faut croire que Dieu a tout fait pour le mieux. Ce qui se présente aujourd'hui pour vous me console de ce que vous avez perdu, et vous saurez ce que c'est quand nous aurons dîné. Mettons-nous à table. » Pendant qu'elle me parlait, je jetai par hasard les yeux sur le gentilhomme en question, qui baissa gravement les siens, d'un air doux et discret pourtant, de l'air de quelqu'un qui était mêlé à ce qu'on avait à me dire. Nous dînâmes donc. Ce fut lui qui me servit le plus souvent. Il but à ma santé, et tout cela d'une manière qui m'annonçait des vues et qui sentait la déclaration muette et chrétienne. On devine mieux ces choses-là qu'on ne les explique, de sorte que j'eus quelques soupçons de la vérité. Après le repas, il passa de la table où nous étions dans le jardin. « Mademoiselle, me dit Madame de Saint-Hermière, vous n'avez point de bien, votre mère ne peut vous en donner. Monsieur le baron de Sercourt en a beaucoup. » C'était le nom de notre dévot. « C'est un homme plein de piété, qui ne croit pas pouvoir faire un meilleur usage de sa richesse que de la partager avec une fille de qualité aussi estimable, aussi vertueuse que vous l'êtes, et dont le mérite a besoin de fortune. Bien, il vous offre sa main, et ce serait un mariage terminé en très peu de jours, et qui vous assurerait un établissement considérable. Il n'est question que d'en écrire à madame votre mère. Déterminez-vous. Il n'y a pas à hésiter, ce me semble, pour peu que vous réfléchissiez sur la situation où vous êtes et sur celle qui vous pouvez tomber à l'avenir. Je vous parle en ami. Le baron de Sercourt n'est pas d'un âge rebutant. Oh, il n'a pas beaucoup de santé, j'en conviens. Il est assez incertain qu'il vive longtemps, ajouta-t-elle en baissant le ton de sa voix. Mais enfin, Dieu est le maître, mademoiselle. Si vous venez à perdre le baron, du moins vous laisserait-il de quoi chérir sa mémoire. Et l'état de jeune et riche veuve, quoique affligé, est encore moins embarrassant que celui d'une fille de condition qui est fort mal à son aise. Qu'en dites-vous? Acceptez-vous le parti? Je restai quelques moments sans répondre. Ce mari qu'on m'offrait, cette figure de pénitent, triste et langoureux, ne me revenait guère. C'était ainsi que je l'envisageais alors, mais j'avais de la raison. Né sans bien, presque abandonné de ma mère, comme je l'étais, je n'ignorais pas tout ce que ma condition avait de fâcheux. J'en avais déjà été effrayé plus d'une fois. C'était ici l'instant de penser à moi plus sérieusement que jamais. Il n'y avait plus à m'inquiéter de cet avenir dont on me parlait si j'épousais le baron qui était riche. Ce mari me répugnait, il est vrai, mais je m'accoutumerais à lui. On s'accoutume à tout dans l'abondance. Il n'y a guère de dégoût dont elle ne console. Et puis, vous l'avouerai-je, moins à la honte de mon cœur qu'à la honte du cœur humain, car chacun a d'abord le sien, et puis un peu de celui de tout le monde. Vous l'avouerai-je donc? C'est que parmi mes réflexions, j'entrevis de bien loin celle-ci, qui était que ce mari n'avait point de santé, comme le disait madame de Saint-Hermière, et me laisserait peut-être veuve de bonheur. Cette idée-là me fit qu'une apparition légère dans mon esprit, mais elle en fit une dont je ne voulus point m'apercevoir, et qui cependant contribua sans doute un peu à me déterminer. « Eh bien, madame, qu'on écrive donc à ma mère, dis-je tristement à madame de Saint-Hermière, je ferai ce qu'elle voudra. » Le baron de Sercourt entra dans la chambre. Le cœur me battit dans le voyant, je ne l'avais pas encore si bien vu. Je tremblais en le regardant, et je le crus déjà mon maître. « Eh bien, je vous apprends que voici votre femme, monsieur le baron, lui dit madame de Saint-Hermier, et que je n'ai pas eu de peine à la résoudre. » Là-dessus, je le saluai, toute palpitante. « Elle me fait bien de l'honneur, répondit-il en me rendant mon salut, avec une satisfaction qu'il modéra tant qu'il put, de crainte qu'elle ne fût immodeste, mais qui, malgré qu'il en eût, ranima ses yeux ordinairement éteints. Il me tint ensuite quelques discours dont je ne me souviens plus, qui étaient fort mesurés et fort retenus, et cependant plus amoureux que galants, des discours d'un dévot qui aime. Enfin, il fut conclu que le baron écrirait dès ce jour-là à ma mère que madame de Saint-Hermière joindrait une lettre à la sienne et que je mettrais deux mots au bas de celle de cette dame pour marquer que j'étais d'accord de tout. M'en convint aussi de tenir l'affaire secrète et de ne la déclarer que le jour du mariage, parce que le baron avait un neveu qui était son héritier et qu'il n'était pas nécessaire d'instruire d'avance. Ce neveu, tout absorbé qu'il était, disait-on, dans la piété la plus profonde, avait pu cependant compter doucement sur la succession de son oncle, d'autant plus que les contradictions qu'il avait essuyé de la part de son évêque et que l'impossibilité où il s'était vu de s'avancer dans les ordres l'avait obligé de quitter le petit Collet il n'y avait que 2 mois. Et ce garçon si pieux que M. le baron ne nommait pas, cet héritier qu'on craignait de chagriner trop tôt, et que ce petit Collet qu'on disait qu'il n'avait plus, m'avait d'abord fait reconnaître, c'était cet abbé dont j'avais délivré mon amie la religieuse. Vous observerez que depuis ce qui s'était passé entre lui et moi, il était venu assez souvent me voir chez M. Villot, tant pour me remercier du silence que j'avais gardé sur son aventure, que pour me conjurer d'avoir toujours cette charité-là pour lui. C'était ainsi qu'il appelait ma discrétion, et pour m'assurer qu'il ne songeait plus à la religieuse. En quoi il ne me trompait pas. Il venait même me trouver quelquefois dans une grande allée qui était près de notre maison, où j'avais coutume de me promener en lisant. On nous y avait vus plusieurs fois ensemble. On savait qu'il venait de temps en temps au logis, et cela ne tirait aucune conséquence, au contraire. On ne m'en estimait que davantage. On le croyait presque un saint. Il y avait alors quelque temps que je ne l'avais vu, et il vint le surlendemain du jour où tout ce que je viens de vous dire avait été arrêté chez madame de Saint-Hermière. J'étais dans notre jardin quand il arriva, et sur la connaissance que j'avais du caractère de l'abbé, aussi bien que de la corruption de ses mœurs, qui devait lui faire souhaiter d'être riche, je pensais au chagrin que lui ferait mon mariage avec son oncle quand on le déclarerait. Mais il le savait déjà. Il fallait bien que madame de Saint-Hermière eût été indiscrète et qu'elle eût confié l'affaire à quelque bon ami qui en eût à son tour fait confidence à quelqu'un qui l'eût dit à l'abbé. « Bonjour, mademoiselle, me dit-il en m'abordant. Oh, j'apprends que vous allez épouser le baron de Sercourt. Et je viens d'avance assurer ma tante de mes respects. » Je rougis de ce discours, comme si j'avais eu quelque chose à me reprocher à son égard. « Je le sais, lui répondis-je, qui vous a si bien instruit, mais on ne vous a pas trompé. Je vous dirai au reste que ce n'a été qu'après m'être promise à M. de Sercourt que j'ai su que vous étiez son neveu et que je ne vous aurais point fait un mystère de notre mariage s'il ne l'avait pas exigé lui-même. C'est lui qui a voulu qu'on l'ignorât. Et le seul regret que j'ai dans cette affaire, c'est qu'elle vous prive d'une succession que je n'aurais pas songé à vous ôter. Mais mettez-vous à ma place. Je n'ai point de bien, vous le savez, et si j'avais refusé le baron, ma mère, qui voudrait être débarrassée de moi, ne me l'aurait jamais pardonné. Oh, puisque j'avais à perdre le bien de mon oncle, me repartit-il avec un sourire assez forcé, J'aime mieux que vous l'ayez qu'un autre. Monsieur Villot, qui était dans le jardin et qui s'était approché de nous, interrompit notre conversation en saluant l'abbé, qui resta encore un quart d'heure, qui me quitta ensuite avec une tranquillité que je ne crois pas vraie, et qui, ce me semble, lui donnait en cet instant l'air d'un fourbe. Voilà du moins comment cela me frappa, et vous verrez que j'en jugeais bien. Il continua de me voir, et encore plus fréquemment qu'à l'ordinaire, si fréquemment que le baron, qui le sut, m'en demanda la raison. Mais je n'en sais aucune, lui dis-je, si ce n'est qu'il est mon voisin et qu'il faut qu'il passe près du logis pour aller chez madame de Saint-Hermière, que depuis quelque temps il va voir plus souvent que de coutume, comme il était vrai. J'oublie de remarquer que ce neveu, après m'avoir fait le compliment que je vous ai dit sur mon mariage, dont il ne me parla plus, m'avait prié de ne dire à personne qu'il en fût informé et que je lui en avais donné ma parole, de sorte que je n'en avertis ni le baron ni madame de Saint-Hermière. Vous observerez aussi que pendant ce temps que j'étais comme brouillé avec cette dame, il ne m'avait jamais, dans nos conversations, paru faire grand cas de sa piété, et donc il se fût expliqué là-dessus d'une manière ouverte. Je n'avais démêlé que ce que je dis là que par ses mines, par de certains sourires, et que par son silence quand je lui montrais mon estime ou ma vénération pour cette veuve, que je blâmais d'ailleurs du motif de son refroidissement pour moi. Quoi qu'il en soit, cet abbé, dont la tranquillité m'avait semblé si fausse, s'en alla chez madame de Saint-Hermière en me quittant, dîna chez elle et, dans le cours de sa visite, eut des façons, lui fit des discours qui la surprirent à ce qu'elle me confia le lendemain. Croirez-vous, madame, lui avait-il dit, que ce qui m'a le plus coûté dans l'état ecclésiastique où vous m'avez vu, ait été de surmonter une violente inclination que j'avais? Oui, je puis l'avouer, à présent que mon penchant n'a plus rien de répréhensible, et que la personne pour qui je le sens peut me faire la grâce de recevoir mon cœur et ma main. Et pendant qu'il tenait ce discours, ajouta-t-elle, ses regards se sont tellement attachés et fixés sur moi que je n'ai pu m'empêcher de baisser les yeux. Et qu'est-ce donc que cela signifie, et à quoi songe-t-il? Quand je serai d'humeur à me remarier, ce qu'à Dieu le plaise, ce ne serait pas un homme de son âge que je choisirais. Il faut sans doute que j'ai mal entendu. Alors je ne sais plus ce que je lui répondis, mais cet homme, trop jeune pour devenir son mari, ne l'était point trop pour lui plaire. Oh, ne lui parlez point de ce que je vous rapporte là, me dit-elle. J'ai peut-être eu tort d'y faire attention. Et elle n'y en fit que trop dans la suite. Cependant, on reçut des nouvelles de ma mère, qui envoyait le consentement le plus complet, joint à la lettre du monde la plus honnête, avec une autre lettre pour madame de Saint-Hermière, dans laquelle il y avait quelques lignes pour moi. De sorte qu'on a hâté mon mariage, quand tout fut arrêté par une maladie qui me vint, qui fut aussi longue que dangereuse, et dont je fus plus de 2 mois à me rétablir. L'abbé, pendant qu'elle dura, parut s'inquiéter extrêmement de mon état et ne passa pas un jour sans me voir ou sans venir savoir comment j'étais. Jusque-là que le baron, à qui son neveu devenu libre, avait avoué qu'il se marierait volontiers s'il trouvait une personne qui lui convînt, s'imagina qu'il avait des vues sur moi et me demanda ce qui en était. Non, lui repartis-je, votre neveu ne m'a jamais rien témoigné de ce que vous me dites là. Il ne s'intéresse à moi que par de simples sentiments d'estime et d'amitié. Et c'était aussi ma pensée, et je n'en savais pas davantage. Enfin, je guéris, et comme je n'allais épouser le baron que par un motif de pure raison qui me coûtait, cela me laissait encore un peu de tristesse, compris pour un reste de faiblesse ou de langueur, et le jour de notre mariage fut fixé. Mais ce fut le baron de Cercourt et non pas madame de Saint-Hermière qui me pressa de hâter ce jour-là. Ce que je trouvais même d'assez singulier, c'est qu'elle cessa, depuis ma convalescence, de m'encourager à me donner à lui, comme elle avait fait auparavant. Il me paraissait au contraire qu'elle n'eût pas désapprouvé mes dégoûts. « Vous êtes rêveuse, je le vois bien, » me dit-elle un matin qu'elle était venue chez moi, « et je vous plains, je vous l'avoue. » La veille du jour de notre mariage, elle souhaita que je vinsse passer toute la journée chez elle et que j'y couchasse. « Écoutez, » me dit-elle sur le soir, « il n'y a encore rien de fait. Ouvrez-moi votre cœur. Vous sentez-vous trop combattu ? N'allons pas plus loin. Je me charge de vous excuser auprès de la marquise. N'en soyez pas en peine et ne vous sacrifiez point. À l'égard du baron, son neveu lui parlera. Est-ce que l'abbé est instruit ? Lui répartis-je. Oui, me répondit-elle, il vient de me le dire, il sait tout, et j'ignore par où. Hélas, madame, repris-je, je n'ai suivi que vos conseils. Il est plus tard de se dédire. Ma mère, qui ne m'aime point, ne serait pas si traitable que vous le croyez, et nous ne sommes trop avancés pour ne pas s'achever. N'en parlons plus, me dit-elle d'un air plus chagrin que compatissant. L'abbé arriva alors. Vous avez, dit-on, compagnie ce soir, madame. Mon oncle sera-t-il des vôtres? N'y a-t-il rien de changé? Lui dit-il. Non, c'est toujours la même chose, repartit-elle. À propos, madame de Clerville, oh, c'était une de ses amies et de celle du baron, doit être de notre souper, et elle me l'a promis. Oh, j'ai peur qu'elle ne l'oublie, et je suis d'avis de l'en faire ressouvenir par un petit billet. Mademoiselle, ajouta-t-elle, j'ai depuis hier une douleur dans la main. J'aurai la peine à tenir ma plume, voulez-vous bien écrire pour moi? Volontiers, lui dis-je, vous n'avez qu'à dicter. Oh, il ne s'agit que d'un mot, reprit-elle, et le voici. Vous savez que je vous attends ce soir, ne me manquez pas. Je lui demandai si elle voulait signer. « Non, non, me dit-elle, il n'est pas nécessaire. Elle saura bien ce que cela signifie. » Aussitôt, elle prit le papier. « Sonnez, monsieur, dit-elle à l'abbé. Il est temps qu'on le porte. »« Mais non, arrêtez-vous, vous ne souperez point avec nous. Cela ne se peut pas. Je suis même d'avis que vous nous quittiez avant que le baron arrive et vous aurez la bonté de rendre en passant le billet à madame de Clerville. Vous ne vous détournerez que d'un pas. » « Donnez, madame, répondit-il, votre commission va être faite. » Il se leva et partit. À peine venait-il de sortir que le baron entra avec un de ses amis. Nous soupâmes fort tard. Madame de Clerville, que je ne connaissais pas, ne vint point. Madame de Saint-Hermière ne fit même pas mention d'elle. Après le souper, nous entendîmes sonner 11 heures. « Mademoiselle, me dit madame de Saint-Hermière, il est assez tard pour une convalescente. Vous devez entrer à l'église dès 5 heures du matin. Allez vous reposer. » Je n'insistai point, je pris congé de la compagnie et de monsieur de Cercourt, qui me prit la main et ne fit que l'approcher de sa bouche sans la baiser. Madame de Saint-Hermière pâlit en m'embrassant. « Vous avez plus besoin de repos que moi, lui dis-je, et je partis. » Une de ces femmes me suivit jusqu'à ma chambre, dont la clé était à la porte. Elle me déshabilla en partie, je la renvoyai avant que de me mettre au lit, et elle emporta ma clé. Il faut vous dire que je logeais dans une aile du château assez retirée, et que par un escalier dérobé rendait dans le jardin d'où l'on pouvait venir à ma chambre. Oh, je n'avais nulle envie de dormir et je me mis à rêver dans un fauteuil où je m'oubliais plus d'une heure. Après quoi, plus éveillé encore que je ne l'avais été d'abord, je vis des livres qui étaient sur une tablette et j'en pris un pour me procurer un peu d'assoupissement par la lecture.